France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Triste tropique, l'aventure humaine. Chapitre 4, parenthèse américaine. Comme nous l'avons vu, le cœur de ce que Lévi-Strauss raconte dans son livre Triste tropique, ce sont ses missions auprès des peuples autochtones du Brésil. En toute logique, l'ouvrage devrait donc se concentrer là-dessus et s'arrêter à sa dernière mission en Amazonie, celle de 1938. Pourtant, Lévi-Strauss raconte aussi dans ce livre une autre période de sa vie et qui est postérieure. Je veux parler de cet épisode qui se situe en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, le moment de sa traversée de l'Atlantique en bateau pour rejoindre les États-Unis. Quel rapport, me direz-vous, entre ce voyage et les Nambiquara, les Bororo ou les Kaduvéo ? Eh bien, il n'y en a aucun, si ce n'est qu'il s'agit justement là aussi d'un voyage, peut-être aussi éprouvant que ceux qu'il a effectués au fin fond de l'Amazonie. Mais alors pourquoi Lévi-Strauss nous parle-t-il de cet épisode de sa vie s'il n'a plus rien à voir avec le cœur de son livre ? Eh bien, je vous livre une hypothèse. Ce qu'il cherche à faire avec Triste Tropique, c'est peut-être tout simplement de comprendre l'être humain. Et quel meilleur moyen d'étudier l'âme humaine que de raconter ce voyage en pleine guerre alors qu'il fuit les nazis ? Il se situe en effet à un moment particulièrement bouleversé de l'histoire du monde, qui est aussi l'un des moments les plus bouleversés de son histoire personnelle. Même embarqué sur une galère moderne pour fuir les persécutions, Lévi-Strauss ne s'arrête jamais vraiment d'être un ethnologue, un anthropologue, un philosophe, et Triste Tropique est le réceptacle de tout cela. Ce livre est son laboratoire.
Disons, c'est le seul livre où je me suis dit je vais écrire tout ce qui me passe par la tête. Je ne m'occupe pas de savoir si c'est juste ou si ce n'est pas juste, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, si c'est convenable de le dire ou pas convenable. Allons-y. Alors, évidemment, ça pouvait prêter à beaucoup de malentendus. Il s'agissait de dire le plus sincèrement du monde comment un homme jeune encore et qui voyait le monde pour la première fois de sa vie, ben comment il réagissait.
Cette auto-observation, cette auto-ethnographie, c'est la raison pour laquelle Triste Tropique ne s'ouvre pas sur le voyage en Amazonie, mais sur une traversée de l'océan en direction de New York. Cela se passe donc en 1941. Lévi-Strauss a été appelé sous les drapeaux et a fait la drôle de guerre en tant qu'agent de liaison. Comme la plupart des appelés à ce moment-là, il n'a absolument aucune occupation tout au long de ses journées passées à ne rien faire sur la ligne Maginot. C'est d'ailleurs lors de l'une de ses journées oisives, couché dans l'herbe et jouant à souffler sur les pissenlits, qu'il a l'intuition du structuralisme, mais ça c'est un autre sujet. Après l'armistice, les Allemands occupent la France, la menace sur les Juifs devient chaque jour plus tangible. La fondation américaine Rockefeller organise alors une sorte d'opération de sauvetage d'intellectuels juifs français. Il se trouve que les travaux de Lévi-Strauss ont tapé dans l'œil de quelques ethnographes américains réputés et le voilà invité à venir travailler à la New School for Social Research à New York. Partir aux États-Unis, oui, bien sûr, mais comment ? Comment obtenir un visa ? Comment trouver un bateau ? C'est là que Triste Tropique commence à se lire comme un roman d'aventure, écrit avec une certaine dose d'humour et d'autodérision. Lévi-Strauss espère d'abord pouvoir transiter par le Brésil et demande un visa à l'ambassadeur brésilien qu'il connaît bien. Celui-ci n'y voit pas d'inconvénient et s'apprête à tamponner son passeport. C'est alors qu'intervient un subordonné, un peu zélé, qui annonce à l'ambassadeur qu'on vient de lui retirer tout pouvoir de délivrer ce genre de document. L'ambassadeur attend, bras en l'air, que cet ennuyeux personnage daigne regarder ailleurs afin qu'il puisse tamponner discrètement le passeport de Lévi-Strauss. Mais le subordonné n'a pas envie de rire. La loi, c'est la loi, surtout en temps de guerre, et il s'enorgueillit de faire très bien son travail. Le bras de l'ambassadeur ne peut pas rester en l'air éternellement. Il redescend doucement et va se poser à côté du passeport. Lévi-Strauss n'aura pas de visa cette fois-ci. Un autre trajet pourtant est possible, passer par la Martinique et embarquer une fois là-bas pour New York. Mais on refuse d'abord de lui vendre un billet sur l'un des rares bateaux en partance. Le prétexte, il ne serait pas assez confortablement installé. Mais où est-on moins confortablement installé que dans un camp de concentration ? C'est la question que se pose en silence Claude Lévi-Strauss. Finalement, à force de persuasion, il réussit à embarquer, le 24 mars, sur un cargo appelé le capitaine Paul Lemerle.
C'est un moche cargo, mais c'est un bateau qui va sauver des hommes. C'est vraiment pas un transatlantique, non, pas du tout. Ça part, c'est in extremis, ça fait partie des contradictions de l'état vichiste qui laisse partir des gens, mais c'est dans des conditions tout à fait éprouvantes que ça se passe. Il y a des gendarmes, il y a des CRS, ils sont mitraillettes au poing, ils sont casqués, il y a une longue file d'attente, et après ils vont se retrouver dans une soute. La plupart du temps, c'est dans des dortoirs absolument infects où les hommes et les femmes sont séparés qu'ils vont partir.
Vincent Debanne, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Genève, éditeur dans la Pléiade des œuvres complètes de Claude Lévi-Strauss, et vous réfléchissez sur les liens entre littérature et anthropologie. Comment expliquez-vous que Lévi-Strauss commence quasiment son livre par un voyage qui n'a rien à voir, a priori, avec le sujet qui est annoncé ?
C'est vrai que c'est frappant, c'est vrai aussi que c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup remarqué, c'est-à-dire que l'image qu'on a Triste Tropique, c'est celle d'un récit des expéditions brésiliennes des années 30. Et en réalité, le livre, il commence sur cette traversée de 1941, alors qui n'est pas vraiment un voyage, qui est plutôt un exil, sur ce navire, le capitaine Paul Lemerle, sur lequel Lévi-Strauss, avec quelques centaines de réfugiés, se retrouve en partance pour la Martinique. Alors pourquoi est-ce qu'il commence par là ? Parce qu'en fait, Triste Tropique n'est pas un récit de voyage. Il faut prendre cette idée au sérieux.
C'est pas un récit d'exil non plus.
C'est pas non plus un récit d'exil, mais c'est une... Triste Tropique, c'est un livre qui est écrit en 1955. C'est-à-dire, en fait, 20 ans après les expéditions. Et c'est vraiment très important de garder ça en tête. C'est-à-dire que Triste Tropique, c'est un travail de remémoration depuis les années 50 de l'avant-guerre. Or, qu'est-ce qui sépare les années 50 des années 30 ? C'est précisément l'expérience de la guerre. Et pour Lévi-Strauss, l'expérience des persécutions. Donc, commencer sur le traversée du capitaine Paul Lemerle, c'est pour Lévi-Strauss une façon de ressaisir le passé depuis ce qui a été ce point de bascule, qu'a été la persécution des Juifs par le régime de Vichy, et aussi pour lui une espèce de basculement, parce qu'en fait quand il part dans les années 30, il est une sorte d'ambassadeur de la culture française, professeur, il a à peine 30 ans, il est professeur d'université à l'université de San Paolo, et en fait, 6 ans plus tard, il est gibier de camp de concentration, selon sa formule dans Triste Tropique.
Donc ce qu'il nous dit, c'est ce que vous allez lire dans Triste Tropique, il faut que vous le compreniez à travers l'histoire qui s'est passée après, c'est-à-dire à travers la persécution des Juifs et sa transformation à lui en tant qu'auteur par, finalement, l'épisode de la Shoah et la Seconde Guerre mondiale.
Alors, il ne le dit pas du tout. Il le dit pas. C'est plutôt une lecture qu'on peut faire rétrospectivement. C'est-à-dire que, c'est l'hypothèse que je propose et que je pense que l'écriture de Triste Tropique, c'est une expérience de remémoration qui est faite dans les années 50 sur la base d'une analogie entre le sort de l'intellectuel juif persécuté et celui des Indiens. Et les deux sont qualifiés de gibier. Les Indiens sont qualifiés de gibier de la civilisation mécanique et Lévi-Strauss lui-même se qualifie de gibier de camp de concentration. Donc je pense que souterrainement, c'est ça qui anime l'écriture Triste Tropique en 1955. Maintenant, c'est pas explicite. Je pense que du point de vue, et c'est peut-être même pas vraiment conscient, du point de vue de Lévi-Strauss, commencer le récit en 41, son idée, c'est de montrer le basculement qu'a connu le monde entre ces années 30, qui étaient pour lui des années de luxe et de rayonnement de la civilisation occidentale, et les années 50, qui en fait ne peuvent plus croire à une civilisation occidentale aussi rayonnante et radieuse.
Sur le capitaine Paul Lemerle, où embarque Claude Lévi-Strauss, il y a 2 cabines qui totalisent 7 couchettes. C'est peu, surtout pour 350 passagers. Parmi celles et ceux qui ont pu embarquer, se trouve notamment André Breton, poète surréaliste déjà célèbre. Avec lui, Lévi-Strauss entame une amitié qui va se poursuivre durant toutes leurs années new-yorkaises. À l'arrivée dans l'île française de la Martinique, l'accueil n'est pas excellent pour les réfugiés du capitaine Paul Lemerle, c'est le moins qu'on puisse dire. On trouve dans la salle des archives une émission dans laquelle l'écrivain martiniquais Daniel Maximin restitue un peu l'atmosphère.
Dans cette île, ils sont très mal accueillis puisqu'ils sont dans une île où solidement le pétainisme s'est installé. Nous sommes donc en pleine Amérique dans un bastion fasciste et pétainiste. Et le bateau, lorsqu'il arrive, ils ne sont pas accueillis, ils sont arrêtés. Et Le terme qui est employé par les gendarmes et les douaniers, c'est la racaille.
Vincent Deban, que vous inspire cette courte archive ?
Non, bah je ne savais pas que Daniel Maxima avait parlé de cet épisode. C'est un épisode en fait, qu'on connaît d'abord par non pas tellement par le récit de Lévi-Strauss, mais d'abord par celui d'André Breton, qui raconte dans Martinique charmeuse de serpents, qui paraît après la guerre, cet accueil par cette police vichysoise de Martinique, et qui raconte qu'il y a devant lui un jeune professeur de sociologie, dont il ne donne pas le nom, je ne sais plus comment il le qualifie, mais enfin très, très digne, et qui se fait accueillir par des injures antisémites. Et donc, je suis étonné. Enfin voilà, c'est un épisode en fait, sur lequel Lévi-Strauss est assez silencieux, c'est-à-dire qu'il dans Trisotropique, il ne parle pas véritablement de ses insultes antisémites, mais c'est un épisode qu'on connaît encore une fois par le récit de Breton.
Mais il dit aussi que la façon dont il est accueilli par les policiers de Fort-de-France, et donc globalement ils sont accueillis, ces passagers du capitaine Paul Lemerle, leur semble à eux scandaleuse. Et lui dit non, moi je savais que la nature humaine elle était comme ça, j'avais déjà vécu des comportements pareils. Et je le cite, toutes ces manifestations stupides, haineuses et crédules que les groupements sociaux sécrètent comme du pu, quand la distance commence à leur manquer, je ne les rencontrais pas aujourd'hui pour la première fois.
Oui, alors ça c'est le grand principe au fond de Trisotropique, dont je disais que c'était un ouvrage qu'il fallait vraiment lire comme un travail de remémoration, c'est que Lévi-Strauss va mettre en série des éléments de son passé entre lesquels il arrive à trouver des analogies. Et donc effectivement, arrivant à Fort-de-France en 41, il se souvient d'autres épisodes où il a eu maille à partir avec alors la police brésilienne à Bahia, la police américaine à Porto Rico. Et donc il met en série tous ces épisodes où en fait on voit une soldatesque, une police désœuvrée devenir extrêmement agressive. Et il dit voilà, en fait en réalité c'est pas simplement un épisode isolé, c'est ce qui arrive quand certains phénomènes sociaux, historiques, se produisent.
Alors c'est le seul aussi, contrairement aux autres, qui n'est pas mis dans un centre de rétention à Fort-de-France.
Oui, alors ça fait partie de ces coïncidences ou de ces chances dont il bénéficie, comme le fait aussi, par exemple, d'avoir une cabine. La plupart des réfugiés, ils sont dans les cales, dans des espèces de dortoirs dont on parlait au début. C'est que simplement, Lévi-Strauss connaît, en fait, il a fréquenté ces compagnies maritimes transatlantiques. Et donc là, je crois qu'en l'occurrence, c'est parce qu'il est reconnu par un membre de la police de Fort-de-France et reconnu par cette personne qui était autrefois quelqu'un qui travaillait pour la compagnie de navigation. Il échappe à ce sort de l'enfermement au Lazaret, c'est-à-dire une espèce de camp de concentration où sont renvoyés, en fait, la plupart des réfugiés qui débarquent à ce moment-là.
Mais c'est anecdotique.
Oui.
Est-ce que, pour vous, c'est une partie de Trisotropique qui peut s'assimiler au roman d'aventure ?
C'est-à-dire, en le relisant pour cette émission, j'ai été en fait assez frappé quand même par le il y a un mélange de désinvolture dans le ton, quelque chose presque de drôle, alors qu'en réalité il s'agit quand même d'épisodes particulièrement tragiques. Et c'est vrai qu'il y a là dedans le souvenir qu'on trouve ailleurs dans Trisotropique d'une tradition qui est celle du roman d'aventure un peu ironique. Par exemple, il y a un chapitre de Trisotropique qui s'appelle Le Monde Perdu. C'est une allusion à un roman qui s'appelle The Lost World de Conan Doyle, qui relève un peu de cette tradition-là. Lévi-Strauss dit aussi qu'il lisait beaucoup Macorlan quand il était enfant, Pierre Macorlan, qui a écrit le manuel du parfait petit aventurier. Donc il y a quelque chose, je pense qu'il y a un souvenir, sans parler de Conrad, etc. C'est sûr qu'il y a, dans l'écriture de Trisotropique, le souvenir de cette tradition. Alors il y a beaucoup de souvenirs littéraires. C'est un livre qui est très, très informé, très, très nourri d'une fréquentation de la littérature. Mais parmi ces souvenirs, il y a celle-là, cette veine du roman d'aventure, parfois un peu picaresque ou un peu drôle. Ouais.
Une désinvolture qui fait le charme purement littéraire, pour le coup, de ce passage, en l'occurrence, et d'autres passages dans Trisotropique.
Oui, absolument.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment, finalement, il arrive aux États-Unis ?
Alors, il arrive aux États-Unis. Alors, à la différence de Breton et d'autres, il ne prend pas directement un bateau pour New York, parce qu'il a peur Lévi-Strauss se promène avec ses cantines, avec les malles dans lesquelles sont les résultats de ses recherches.
Tout ce qui va servir à écrire Trisotropique, notamment, des années plus tard.
Oui, absolument. Tout ce qui va servir à écrire Trisotropique, mais aussi qui va servir à écrire La vie familiale et sociale des Indiens non Miquara, de nombreux articles de techniques, d'ethnologie. Donc, ils sont en fait ces notes de terrain, photographies, fiches, etc., etc. Et en fait, lorsqu'il était pendant la drôle de guerre, lorsqu'il est sur la ligne Maginot, une partie de ses papiers disparaît, pillés par des voisins ou par des Allemands, on ne sait pas. Et donc, la deuxième malle, celle qui recueille tous les résultats de ses recherches menées au cours de la deuxième expédition, il a très très peur qu'il lui arrive la même chose, et donc il se promène avec. Mais du coup, il explique ça, le problème de douane, etc. Il peut pas partir directement sur New York, donc il fait un détour, je pense, par Porto Rico avant de rejoindre les États-Unis par je sais plus quel trajet, et voilà, pour finalement réussir à débarquer à New York un peu plus tard que ses compagnons du capitaine Paul Lemerle.
À la New School for Social Research de New York, Lévi-Strauss enseigne l'anthropologie. Mais il prête aussi sa voix à la radio Voice of America, qui cherche, avec Radio Londres, à contrer la propagande nazie. Sa voix, justement, nous l'avons retrouvée dans la salle des archives.
This is New York. L'Amérique en guerre vous parle. Chaque jour, à la même heure, nous vous apportons les informations que votre censure vous cache et dont l'Allemagne cherche à tout prix à vous priver. En ce moment même, vous nous entendez peut-être mal. L'ennemi, une fois de plus, est peut-être en train de brouiller les ondes, de faire tout son possible pour cacher la vérité. Mais nous ne craignons pas d'être brouillés. Nous savons que tôt ou tard, la vérité se fait jour, que Berlin et ses auxiliaires s'acharne tout non à essayer de couvrir la voix de l'Amérique, les Français l'entendront quand même.
Car chaque fois que nos amis français voient passer un train de blessés allemands, ils savent que Stalingrad tient toujours.
Car chaque fois que nos amis français voient passer des avions britanniques et américains, ils savent que l'offensive aérienne alliée continue.
Car chaque fois que Laval lance un appel inutile en faveur de l'Allemagne, nos amis de France savent qu'ils ont enregistré une nouvelle victoire sur Vichy et sur Berlin.
À la Libération, Lévi-Strauss retourne 6 mois à Paris, mais ne tarde pas à traverser de nouveau l'océan dans l'autre sens. Il est envoyé cette fois comme conseiller culturel, poste qu'il occupe durant 2 années. Au moment où il rentre véritablement à Paris, donc, il arrive un peu en retard pour sa carrière. Durant ses 2 années supplémentaires en Amérique, les postes qui l'intéressaient le plus ont en effet été pourvus et il se trouve à l'orée d'une petite traversée du désert sur le plan professionnel. C'est dans ce contexte qu'il reçoit une proposition qui ne l'intéresse d'abord qu'à moitié.
Triste tropique, c'est un accident. C'est un accident qui a été déclenché un jour par une lettre de Mallory me proposant cette chose à mes yeux tout à fait bizarre de raconter mes années d'expédition au Brésil, ce à quoi j'avais toujours répugné parce qu'il me semblait que, disons, le pittoresque et ce qui pouvait séduire le lecteur, c'était le côté impur du métier. Et qu'au contraire, notre tâche à nous, hommes de science, et je remets science entre guillemets, c'était de gommer tout ça et de ne garder que le noyau dur, c'est-à-dire les résultats de notre recherche. Et puis, en même temps, j'avais toutes ces notes, j'avais toutes ces choses qui n'étaient rentrées dans aucun des livres que j'avais déjà écrits, qui ne rentreraient dans aucun de ceux que j'écrirais. Et je me suis dit, et je rends hommage alors à la force de conviction de John Mallory, je me suis dit, tant pis, allons-y. Mais je l'ai fait avec une telle mauvaise conscience que... Enfin, j'ai expédié Triste Tropique, si je peux dire, en 4 mois. J'y travaillais depuis le matin jusqu'au soir, mais avec l'idée qu'il fallait absolument faire ça vite, parce que je faisais quelque chose de mal, parce que je me détournais de ce à quoi je devais me consacrer.
Vincent Debanne, que vous inspire cet extrait ?
C'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement surprenant dans le fait que Lévi-Strauss... accède à la demande de Mallory. Mallory est tout jeune, complètement inconnu à l'époque. Il est beaucoup plus jeune que Lévi-Strauss. Il a 16 ans de moins, sauf erreur. Et puis Lévi-Strauss, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est très méfiant devant les petits étalages de la subjectivité, mais je pense que Mallory l'attrape à un moment dans son parcours personnel, qui est un moment de crise. Alors, c'est un moment de crise professionnelle, vous l'avez dit, hein, il est dans une sorte d'entre-deux universitaire, il pense qu'il ne va pas faire carrière. C'est un moment de crise personnelle, il s'est séparé de sa deuxième femme, il vient de rencontrer celle qui va devenir la troisième, Monique. Et aussi, c'est ce moment de... C'est ça qu'il dit ici, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a toutes ses notes. Il a toutes ses notes, toutes ces choses dont il ne sait pas quoi faire, qui ne vont pas trouver de destination dans les travaux savants qu'il envisage. Et donc, c'est l'occasion pour lui de faire place nette, en quelque sorte, et de, comment dire, de clore. Au fond, c'est ça aussi, c'est que Lévi-Strauss, à cette époque-là, il vient de passer, sur les 15 dernières années, il en a passé au moins 10 à l'étranger. Et là, il revient en France, il s'installe en France et il va clore en 54-55 en écrivant Triste Tropique. Il va fermer ce moment extrêmement tourmenté de son passé entre le Brésil, la drôle de guerre, l'exil aux États-Unis, le retour aux États-Unis comme conseiller culturel. Et c'est l'occasion, voilà, de fabriquer cet objet bizarre qu'est Triste Tropique, qui est fondé sur le rassemblement de tous ces éléments.
De la même manière que Dina, sa première épouse, avait travaillé avec lui durant les premières missions en Amazonie, sa troisième femme, Monique, est à l'ouvrage pour aider à la rédaction express de Triste Tropique.
Je représentais le bon lecteur cultivé, mais pas l'anthropologue.
Voilà.
Donc, il savait que là où je ne comprendrais pas, il fallait absolument qu'il réécrive pour que le bon lecteur puisse comprendre. Et tous mes commentaires étaient par écrit. Je lui donnais tous mes commentaires négatifs, disons. Mon enthousiasme, je ne l'ai jamais écrit. Mais il m'entendait avoir le fou rire. Je disais, c'est merveilleux, tu ne peux pas savoir ce que c'est bien. Mais je n'écrivais rien.
Est-ce qu'on sait exactement ce que Triste Tropique doit à Monique, la troisième femme de Lévi-Strauss, Vincent Debanne ?
Le travail de Monique est lui aussi, en quelque sorte, passé, non pas passé sous silence, mais tout simplement éclipsé. C'est pour ça que cette archive, elle est intéressante, parce qu'elle fait comprendre qu'en réalité, Triste Tropique n'est pas... c'est bien sûr l'œuvre de Lévi-Strauss, mais ce n'est pas l'œuvre solitaire d'un génie complètement isolé. Il bénéficie notamment de ce regard assez acéré, en fait, semble-t-il, hein, de Monique sur sa prose.
Donc il dit, oui, ça a été compliqué pour moi d'écrire ce livre. Je l'ai écrit en 4 mois. Et en même temps, il y a quelque chose à la lecture qui dément un petit peu ça, parce que on sent un plaisir d'écriture. Et il y a un plaisir de lecture, et le plaisir de lecture, logiquement, il vient s'il y a eu un plaisir à écrire. Donc, est-ce qu'on peut vraiment le croire tout à fait ?
C'est-à-dire, en fait, oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que je pense que Monique Lévi-Strauss raconte, elle le raconte là à Emmanuel Loyer, mais elle l'avait déjà raconté, à quel point elle riait en lisant Triste Tropique. Et effectivement, en relisant moi-même, comme je vous le disais, les premiers chapitres là, la dimension comique, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas
ironique.
Et parfois drôle du livre m'apparaît. Alors, du coup, effectivement, on peut pas non plus croire que Lévi-Strauss dit qu'il écrit ça dans la culpabilité. C'est sans doute vrai, il a un sentiment de péché contre la science, comme il le dit dans un entretien, c'est sans doute vrai, mais il y a aussi une forme de jubilation dans l'écriture à ce moment-là, qu'on retrouve, dont les rires de Monique sont un indice. Et aussi, il faut bien voir que si Lévi-Strauss écrit si vite, il écrit en 4 mois ce livre de 500 pages, qui en plus n'est quand même pas n'importe quel livre, c'est parce qu'en fait, il utilise des morceaux qu'il a déjà écrits. Et qui eux-mêmes portent parfois la trace d'un plaisir d'écriture sur le moment, par exemple quand il est sur le bateau, ou quand il est sur le terrain. Donc voilà, ça explique cette variété d'humeur en quelque sorte qu'on trouve dans ce grand livre.
Dans Triste Tropique, je me suis permis de m'affranchir de toutes ces disciplines qui sont celles de l'homme de science. Ce sont des vacances que je me suis offertes vis-à-vis de la science. Je dirais une comparaison, je ne sais pas si vous êtes photographe, moi je le suis amateur au moins. Dans nos entreprises qui visent à l'objectivité scientifique, nous travaillons un petit peu comme un photographe armé d'un téléobjectif. Nous essayons de saisir des sujets qui sont extrêmement éloignés de nous et la méthode a pour objet de les rapprocher, comme les lentilles, du téléobjectif, et non seulement de les rapprocher, mais en les rapprochant, d'isoler à l'intérieur de notre sujet ces aspects qui sont susceptibles d'une analyse scientifique rigoureuse. Dans Triste Tropique, j'ai voulu tenter la démarche inverse. Au lieu du téléobjectif, d'employer un grand angulaire, c'est-à-dire qui photographie non pas seulement le détail dans l'ensemble, non pas seulement l'ensemble dans cet ensemble encore plus vaste dans lequel il se trouve, mais l'observateur lui-même en train de photographier son monument, et que tout ça se trouve à l'intérieur du tableau.
Vincent Debanne, que vous inspire cette archive ?
Je la connaissais pas, elle est très intéressante. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est d'abord comme ça qu'a été reçu Triste Tropique vraiment dans les années 50, c'est qu'on s'est dit au fond ce n'est pas un livre d'anthropologie, c'est un livre sur ce que c'est que de faire de l'anthropologie. Et donc la comparaison avec le grand angle photographique l'idée que en fait alors que l'anthropologue habituellement zoome, mais là en fait il propose une sorte de zoom arrière qui inclurait non seulement le décor et le décor du décor, mais qui inclurait l'observateur lui-même. Cette idée, elle est très intéressante. Et en tout cas, c'est bien comme ça que le livre a été reçu. Et je pense qu'on peut effectivement le lire comme ça. C'est, en tout cas, ça décrit très très bien le début du livre, toute la dimension au fond d'autobiographie intellectuelle, de naissance de la vocation, etc.
Aujourd'hui, on demande souvent aux historiens de faire ce qu'on appelle de l'égo-histoire, c'est-à-dire de raconter pourquoi ils se sont emparés de tel ou tel sujet, quel est leur rapport personnel avec le sujet. Est-ce que c'est pas un peu de l'égo-histoire ce que fait Lévi-Strauss ? Est-ce qu'il n'est pas précurseur finalement de cette manière d'expliquer pourquoi et comment il fait sa recherche ?
Absolument. Ah oui, c'est évident. Je pense que vraiment l'égo-histoire, c'est sans doute même quelque chose qui n'aurait pas existé sans. C'est Pierre Nora qui a inventé ce terme. Pierre Nora qui était alors qui n'a jamais pu accueillir Lévi-Strauss dans la Bibliothèque des sciences humaines, mais qui était quand même proche de Lévi-Strauss, qui a préfacé d'ailleurs Triste Tropique dans les années 60, dans une réédition des années 60. Je pense que c'est vraiment cette idée qu'il y a une sorte de surdétermination dans le choix des objets, de surdétermination subjective, c'est-à-dire que le chercheur, il y a dans la formation du chercheur, dans son enfance, dans sa jeunesse, des éléments qui expliquent le choix ou les prédilections qu'il va avoir plus tard pour tel ou tel objet, telle ou telle période de l'histoire. Cette idée-là, elle est vraiment magnifiquement construite dans Triste Tropique, et effectivement, elle va infuser ensuite dans l'ensemble des sciences humaines, dans les essais d'égo-histoire, mais aussi dans le goût de l'archive. On va avoir beaucoup de travaux qui vont s'interroger par la suite sur la subjectivité du chercheur. Est-ce que le travail de recherche doit en réalité à cette subjectivité.
Et donc c'est une forme d'honnêteté intellectuelle de dire, voilà, je parle de ce sujet, mais c'est pas complètement pour rien, c'est parce que ça croise mon histoire personnelle.
Absolument, absolument, oui.
Au moment où paraît Triste Tropique en 1955, la démarche de Lévi-Strauss entre science et littérature a vraiment de quoi surprendre. Contre toute attente, le livre va pourtant trouver un très large public, un succès dont le premier surpris est Claude Lévi-Strauss lui-même, comme nous allons le voir au cours du prochain épisode.
Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil. Et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre.
C'était Triste Tropique, l'aventure humaine, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Xavier Joly, attachée de production Lily Corner, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, prise de son Philippe Thibault, mixage Manon Houssin.